Chapitre 7. Le procès criminel. Le tribunal criminel était présidé par M. Jérôme Goyer, membre de l'Assemblée législative, assisté par le citoyen Desmaisons, substitut, commissaire du pouvoir exécutif, et les juges Roidois et Doyot du tribunal criminel, Darmeuse et Godefroy du tribunal civil. Il y avait 6 accusés présents. Au premier rang figurent Couriol, Le Surc, Guénot et Bernard. Au second rang, Richard et Bruère. Ce sont des hommes jeunes. Leur âge varie entre 31 et 33 ans. Contre les 4 premiers, l'accusation a relevé les charges les plus accablantes. Guesnot seul paraît avoir en main les preuves manifestes de son alibi. Quant aux 2 derniers, ils ne sont accusés que de complicité. Et ici encore, du moins en ce qui concerne Bruère, des doutes sérieux s'affirment. Bruère est un homme sans valeur, type effacé, d'ordre inférieur, à la dévotion absolue de Couriol qui le nourrit et pourvoit à son existence. Il a peut-être profité du vol, mais il n'a certainement pas pris part à l'assassinat. De tous ces hommes, il n'y en a donc réellement que 2 sur lesquels se concentre l'attention, Couriol et Le Surc. C'est sur eux que se portent tous les regards, c'est leur personne qui éveille au plus haut degré la curiosité qui s'attache à tout héros de corde assise. Le Surc soutient avec calme et résignation l'attention dont il est l'objet. Quant à Couriol, c'est autre chose. Le péril où il se trouve ne peut le faire renoncer à ses habitudes du muscadin, comme on appelait les petits secrets du directoire, les petits crevés du directoire. Il est vif, alerte, impertinent, et n'a rien changé à sa mise ordinaire. Il porte un pantalon de peau qui dessine les contours élégants de ses jambes, des bottes du meilleur faiseur, un gilet rouge brodé et un chapeau à 3 cornes, sur le ton noir duquel il se détache lors d'une ganse fine et habilement tissée. Il ne se fût pas mieux habillé pour se rendre un petit souper. Dès que les portes du tribunal s'ouvrirent, un court nombre de curieux se précipita dans la salle d'audience. Le silence le plus profond s'établit de tous côtés quand la cour prit place. Après la lecture de l'acte d'accusation et les questions d'usage adressées aux prévenus, commença l'audition des témoins. Il n'est pas besoin de rappeler les déclarations des témoins à charge. Le lecteur connaît les dépositions qui ont servi à établir l'accusation et tout l'intérêt des débats se porte essentiellement maintenant sur les moyens que va employer la défense. Quand on accuse un homme d'un crime monstrueux, qu'on lui dit avec précision « Vous vous trouviez tel jour, à telle heure, en tel endroit, vous y avez été vu, un grand nombre de témoins vous reconnaissent de la façon la plus catégorique », le malheureux, enfermé dans ses témoignages nets et fermes, qu'il soit innocent ou coupable, n'a qu'un moyen de repousser l'accusation redoutable qui menace son honneur et sa vie, c'est d'établir à son tour ce qu'il a fait un jour à l'heure du crime. En d'autres termes, il doit prouver son alibi. C'est ce que tenta Le Surc. Le premier témoin qu'il produisit était le plus important, celui sur lequel on comptait le plus. Le Grand était un ami de Le Surc. Il exerçait l'industrie d'orfèvre bijoutier au Palais Royal, et on le connaissait sur la place de Paris comme le plus probe et le plus honnête des négociants. Un pareil témoignage portait en lui-même une grande autorité. Quand Le Grand parut à la barre, un mouvement d'attention se fit et chacun attendit avec un réel et sincère intérêt la révélation qu'il devait apporter. Sur la demande du président, Le Grand déclara que le 8 Floréal, Il avait reçu la visite de Le Surc, qui était resté dans son magasin une partie de la matinée. Il ajouta qu'il était d'autant plus sûr de ce qu'il avançait que le même jour, à la même heure, le citoyen Aldenhoff lui avait acheté divers objets d'orfèvrerie et que cette vente figurait sur son livre à la date mentionnée. Témoin, fit observer le président Goyer, vous affirmez que le 8, l'accusé a passé une partie de la matinée avec vous. Oui, citoyen président. Et cette présence de Le Surc coïncide, dites-vous, avec l'inscription sur votre livre journal d'une vente faite le même jour au citoyen Aldenhoff. Oui, c'est cela même. A-t-on vérifié votre livre? Oh, je ne pense pas. Eh bien, qu'on le produise à l'instant. Il est important que le tribunal soit fixé sans retard. L'audience va être suspendue jusqu'à l'arrivée de ce document. Chapitre 8. Le journal du bijoutier. L'incident n'avait rien que de fort naturel. On s'empressa d'obéir à l'injonction de la cour, et quand l'huissier vint, une demi-heure après, déposer sur le bureau le journal en question, c'est avec une certaine curiosité impatiente que le président se mit à chercher la page indiquée par Legrand. Mais à peine y a-t-il jeté un regard qu'il fait un mouvement où éclatent la surprise et l'indignation, et se retournant courroucé vers les juges et les jurés. On veut tromper la justice, s'écrie-t-il avec véhémence. Pour arracher un coupable au châtiment qu'il a encouru, on ne recule devant aucun moyen criminel. Mais la justice veille, et elle ne se laissera pas surprendre dans sa vigilance et sa fermeté. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous vu? Demanda le défenseur de Le Surc interdit. Il y a, citoyen, répliqua Gommier, il y a que le livre présente une surcharge grossière, et que pour le besoin de la cause du neuf qui existait, on a tenté de faire un huit. Le défenseur saisit le livre incriminé, l'examina et pâlit. Ce que vient de dire le président est vrai. La surcharge est évidente et il n'y a pas à se dissimuler la gravité d'un fait aussi étrange. Dans l'auditoire, l'impression est immédiate, profonde, terrible. L'accusateur public s'est levé et d'une voix éclatante, il requiert l'arrestation du témoin. On s'empare de Legrand, il est placé entre deux gendarmes, et le président ordonne qu'il sera renvoyé devant le juge de paix de la section du Pont-Neuf comme accusé de faux. Legrand balbutie, ne trouve aucune explication à fournir, et intimidé par le désordre qui se manifeste autour de lui, en proie à un trouble indicible, il finit par rétracter ses premières dépositions, en reconnaissant qu'il leur avait donné pour base une date évidemment fausse. Quant à Le Surc, malgré les foudroyants effets produits par l'accident, il conserve son sang-froid. Le grand, dit-il, n'est pas la seule personne qui puisse attester ma présence à Paris le jour du crime, et je demande que l'on passe à l'audition des autres témoins. Il avait raison, sans doute. Il n'était pas responsable, lui, de la falsification du livre du bijoutier. Et le tribunal devait attendre, pour former sa conviction, d'avoir entendu les autres témoins. Mais l'impression était produite, et elle devait lui être fatale. À partir de ce moment, en effet, tous les efforts de la défense deviennent vains. Les témoignages qui se produisent en sa faveur sont suspects d'avance. C'est à peine si on les écoute. Et puis, quelques-uns de ces témoignages sont vraiment bien imprudents. Pour sauver Le Surc, Clotilde Gély d'Argence vient déclarer que depuis plusieurs mois, elle a vu Le Surc tous les jours. Et le tribunal ne relève cet aveu que pour en faire une accusation d'immoralité contre le prévenu. On aurait dû le prévoir. À mesure que la défense faiblit, L'accusation s'affirme et redouble de zèle. C'est la marche naturelle des choses. Or, dans cette lutte ardente et passionnée, quel espoir pouvait donc rester à Le Surc, s'il est vrai qu'il fût innocent? Un seul, et nous allons le faire connaître. Nous avons dit qu'en présence de l'accusation qui le menace, après l'incident Le Grand, en dépit de l'impression fâcheuse produite sur les jurés par les charges accablantes que n'avaient pu détruire quelques témoignages favorables d'amis, il restait à l'accusé un espoir. Des deux armes qu'il avait pour se défendre, l'une venait de se briser entre ses mains et s'était même retournée contre lui, l'alibi. Mais l'autre, celle qui devait lui être indiquée par la voix de sa conscience révoltée, c'était la supposition qu'il se trouvait parmi les assassins un homme qui lui ressemblait, un sosie qu'on avait vu sur le lieu du crime et dont les traits rappelaient les siens jusqu'à l'invraisemblance. C'était là son refuge suprême, son salut. Que l'idée lui en vienne à l'esprit, et comment ne lui est-elle pas venue, il est sauvé. C'était tout un système de défense, le seul même qui convainc à l'accusé innocent. Et s'il ne s'y était engagé d'un pas seulement, à quelle découverte ne serait-il pas arrivé? Au signalement de Dubosc. Quelle éclatante lumière cette découverte n'eût-elle pas jetée sur tous les points obscurs de ce procès? Quoi que ce soit peut-être anticipé sur les faits qui vont suivre, le lecteur ne sera gré de lui donner dès à présent le signalement de Dubosc que nous mettrons en regard de celui de Le Surc. Signalement de Dubosc dans le jugement du 2 août 1797 du tribunal criminel de Versailles. Âge 33 ans environ. Taille 5 pieds, 4 pouces, 6 lignes. Cheveux, sourcils blonds, yeux gris, nez aquilin, bouche moyenne, menton fourchu. Au moment de son arrestation, le 11 mai 1790, signalement de Le Surc. Âge 32 ans. Taille 5 pieds 3 pouces, cheveux blonds, yeux bleus, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond et double. Signe particulier, Dubosc. Petite cicatrice au front, au-dessus de l'œil droit, une coupure sur le gros pouce en dehors de la main droite. Le Surc. Une cicatrice au front, côté droit, le doigt de la main droite estropié. Mystérieuse ressemblance, fatale rencontre. C'est à peine si la supposition d'un sosie est indiquée en procès, et encore n'en est-elle que sous la forme la plus hésitante et la plus timide. Et ce n'est que plus tard, après le jugement, qu'elle se produit avec autorité, et que l'importante personnalité de Dubosc apparaît tout à coup dans l'affaire. Mais alors, il était trop tard. Chapitre 9. Le fils du courrier. La conviction des jurés s'était formée d'après les débats qui avaient eu lieu, et dans lesquels étaient entrés bien des éléments d'une nature toute morale, dont l'appréciation est absolument impossible à une distance de plus de 70 ans. Il n'y a plus là l'intérêt palpitant du drame vivant. Des pièces de conviction tachées de sang ont disparu. On ne peut plus surprendre la pâleur des accusés effarés sur leur banc, et il ne reste que les parchemins du procès qui sont, selon la parole de Balzac, comme les cendres refroidies d'un incendie éteint. Il ne faut pas croire non plus que les jurés se soient prononcés légèrement et qu'il n'ait pas apporté dans la grave mission dont ils étaient chargés toute l'attention et le soin que réclamait une pareille affaire. Selon ce que nous écrit M. Ernest Hamel, l'éloquent et savant auteur de l'histoire de Robespierre, le tribunal criminel, fonctionnant vers avec l'assistance de 12 jurés, ayant pour président Treillard et pour accusateur public Robespierre, aurait été installé le 15 février 1792. C'était donc une institution récente que l'on avait fortifiée de toutes les garanties qui devaient protéger l'accusé. L'organisation du jury était notamment aussi sérieuse qu'on pouvait le désirer. Il y avait d'abord un jury d'accusation, dont les fonctions équivalaient à celles de notre chambre actuelle des mises en accusation. Puis, une fois que ce premier jury avait décidé qu'il y avait lieu de poursuivre, l'accusé se présentait devant le jury du jugement, composé de 12 jurés tirés au sort sur un nombre de 250 citoyens. Nous ferons remarquer en outre, et ceci est important, qu'il fallait, pour obtenir une condamnation, que le jury se prononçât dans ce sens, à la majorité de 10 voix contre 2. Dans l'affaire de Zurk, rien n'avait été négligé de ce qui pouvait donner à une grande autorité au jugement qui allait être prononcé. 3 jours et 3 nuits furent consacrés au débat, pendant lesquels on entendit 80 témoins à décharge en faveur de Zurk, et ce n'est que vers la fin du 4e jour, le 18 Thermidor, le 5 août, que les débats furent clos et que les jurés se retirèrent vers 2 heures de relevée dans la salle de leur délibération. Voici les questions qui leur avaient été posées. Premièrement, est-il constant qu'il a été commis un homicide sur la personne du sieur Excoffon, courrier de la Malle de Lyon dans la nuit du 8 au 9 Floréal dernier, sur la route de Paris à Melun? Étienne Couriol, Joseph Le Zurk, Jacques Guénaud et David Bernard sont-ils convaincus d'avoir participé à cette action, de l'avoir fait volontairement, de l'avoir fait sans indispensable nécessité d'une légitime défense, de soi-même ou d'autrui, de l'avoir fait sans provocation violente, de l'avoir fait sans préméditation? Deuxièmement, est-il constant qu'il a été commis un homicide sur la personne du sieur Audebert, postillon dans la nuit du 8 au 9 Floréal dernier, sur la route de Paris à Lyon? Est-il constant qu'il a été pris de l'argent monnayé, des promesses de mandat, des assignats et autres effets, dans la malle du courrier de Lyon? Étienne Couriol, Joseph Le Zurk, Charles Guénaud, David Bernard sont-ils convaincus d'avoir participé à cette action, de l'avoir fait dans l'intention de voler, de l'avoir fait à force ouverte et avec violence, de l'avoir fait la nuit sur un grand chemin et portant des armes meurtrières? De l'avoir fait la nuit sur un grand chemin et portant des armes meurtrières. Quatrièmement, Joseph Thomas Richard Antonio Philibert Bruer sont-ils convaincus d'avoir reçu gratuitement partie des effets volés, de l'avoir fait sachant que les 10 effets provenaient d'un vol, de l'avoir fait dans l'intention d'un crime? La délibération dura 6 heures, et ce fut à 8 heures du soir seulement que le jury rentra dans la salle des audiences. Or, pendant que le sort des malheureux criminels se décidait, 2 femmes attendaient le verdict avec une profonde et douloureuse anxiété qui prenait sa source dans des sentiments bien différents. 2 femmes, l'une veuve, l'autre sur le point de le devenir. Le courrier Excoffon, outre qu'il était courrier de la malle, exerçait l'industrie de joaillier et avait établi son magasin sur la place Dauphine. Il avait une femme et un fils. La femme était âgée déjà, mais le fils venait d'entrer dans sa 19e année. Dans cette pauvre petite boutique de la place Dauphine, il s'était passé une scène déchirante au lendemain de l'assassinat du pont de Pouilly. De nouvelles sinistres se répandent vite, nul ne l'ignore. Et puis il y a des pressentiments indéfinissables qui troublent plus particulièrement l'âme des mères et le cœur des épouses. Le 9 Floréal au matin, la citoyenne Escoffon avait dû éprouver un de ces pressentiments. Nul ne nous l'a raconté, mais soyez sûr qu'elle avait mal dormi pendant cette nuit terrible où l'on assassinait son mari. Bientôt, cependant, la nouvelle fit irruption dans le petit magasin et l'épouvantable réalité frappa la malheureuse comme d'un coup de foudre. Elle en fut morte, peut-être, si son fils ne se fût trouvé près d'elle. La mère sauva l'épouse. Elle attira son enfant dans ses bras, confondit ses larmes avec les siennes et, le forçant à s'agenouiller à ses côtés, Prions, mon enfant, dit-elle d'une voix brisée, prions pour que celui qui vient de mourir. L'enfant s'était agenouillé, mais les lèvres seules priaient. Son cœur, sa pensée, tout son être était ailleurs. Il voyait la route ensanglantée, la malle renversée, le pont de Pouilly, le bouquet d'arbres du Clozot, et non loin de là le cadavre de son père. Les impressions sont vives à cet âge, et l'enfant n'y put résister. Il s'arracha des bras de sa mère tremblante, et l'âme pleine d'une résolution farouche, il partit seul à pied, sans guide, se dirigeant d'un pas rapide vers le théâtre du crime. Quand il revint, il avait tout vu, et il rapportait de ce spectacle une implacable haine contre les assassins et une soif légitime de vengeance. La vengeance, c'était le jury qu'il allait lui donner. Il l'attendait, rôdant, agité, sombre, autour des bâtiments de la chancellerie du palais, où siégeait alors le tribunal criminel. Chapitre 10, l'arrêt. Dans un autre coin de Paris, à la même heure, il y avait également une malheureuse famille dont l'honneur, la fortune, la vie étaient suspendus à cet arrêt encore inconnu. Depuis 3 jours et 3 nuits, la plus poignante de tous les drames se jouait dans ce pavillon élégant, situé entre cour et jardin, où le zurg avait réuni toutes les fantaisies du goût et de l'art. Il y avait là une femme toute jeune encore, qu'une affreuse catastrophe venait d'arracher à la vie facile qu'elle menait, pour la livrer brusquement à tout le désordre du plus violent désespoir. C'est au milieu des larmes et des sanglots qu'elle se rappelait son passé heureux. Quelques nuages avaient bien parfois jeté leur ombre sur ce passé, mais à ce moment, elle n'avait de mémoire que pour les heures enivrées d'un amour partagé. Autour d'elle, ses enfants allaient et venaient, inquiets et troublés, parlant à voix basse, marchant sur la pointe des pieds, comme dans ces appartements silencieux où la mort a passé. Puis il y avait surtout un détail qui navrait la pauvre femme. Quelques mois auparavant, on avait placé sur la cheminée du salon un buste de l'Euzurk. Ce jour-là avait été une fête de famille. Des amis étaient venus, on avait dîné, ri et chanté. On était loin de soupçonner alors l'épouvantable catastrophe qui se préparait. Qui eût pu le prévoir? Puis tout à coup, dans cette existence si limpide en apparence, un événement inouï était tombé et en avait troublé inopinément les profondeurs transparentes et calmes. Le deuil s'était répandu dans la maison. Toute joie avait disparu. Un sombre voile la couvrait à jamais. Seul le buste était toujours là, conservant sa sérénité et son même regard bienveillant et doux. Sur sa lèvre aimable errait le sourire des jours du bonheur. Quel spectacle pour l'épouse dont toute la vie désormais était faite de terreur. Au moindre bruit venant du dehors, elle frissonnait. Depuis 3 jours, elle n'avait pas dormi. Elle était pâle, énervée, les yeux brûlés par les larmes, le corps brisé par d'horribles émotions. Oh, mais elle ne doutait pas, elle. Le père de ses 3 enfants ne pouvait pas être un criminel. Elle l'eût attesté de son sang, s'il l'eût fallu. Malheureusement, cette attestation de la femme en faveur du mari ne pouvait être admise, et c'était au juré à prononcer. Quand ils rentrèrent en séance, on avait fait retirer les accusés. Et c'est au milieu d'un solennel silence que le tribunal rendit son arrêt. Charles Guesneau et Philibert Bouhers étaient acquittés. Pierre-Thomas Richard, condamné à la peine de 24 années de fer et 6 heures d'exposition. Étienne Courriol, Joseph Lesurgue et David Bernard, à la peine de mort. Tout était fini. On pouvait le croire, du moins. Il n'en était rien. Au moment, en effet, où le président prononçait le fatal arrêt, un incident des plus inattendus vint tout à coup jeter le trouble dans les consciences et ébranler les convictions les plus sincères. Pendant le délibéré des jurés, une femme, déclarant se nommer Madeleine Brébant, avait demandé à parler au président Goyer. C'était la maîtresse de Courriol. Elle annonçait qu'elle avait de graves révélations à faire et qu'à ces révélations était suspendue la vie de 5 accusés. Le président la reçut dans son cabinet. La malheureuse fille fit connaître alors que Courriol seul était coupable, et que ni Bernard, ni Richard, ni Le Surgue, ni Bruère, ni Guesneau n'avaient pris part à l'assassinat du courrier. Et elle supplia celui qui l'écoutait de ne pas permettre que la justice frappât des innocents. Cette intervention était au moins étrange, et le président ne voulut pas croire à sa sincérité. Il pensa sans doute que cette femme n'agissait pas sous l'influence de sa seule volonté. Il soupçonna une pieuse fraude inventée par une épouse désolée, qui n'avait pas craint de se commettre avec une courtisane pour sauver les jours de son mari. Et sous l'empire de cette prévention, il refusa de l'entendre davantage. Il est trop tard, répondit-il. 1 heure après, l'arrêt était rendu. Cependant, Le Surgue avait espéré jusqu'au bout. Quand il s'entendit condamné, quand il comprit bien que tout espoir était perdu, une pâleur mortelle se répandit sur ses traits, un frisson courut sur ses membres, et il leva les yeux au ciel comme pour prendre Dieu à témoin de ses paroles. Citoyens, dit-il d'une voix que l'émotion étranglait, le crime dont on m'accuse est horrible et mérite la mort. Mais s'il est affreux d'assassiner sur une grande route, il ne l'est pas moins d'abuser de la loi pour frapper un innocent. Un moment viendra où mon innocence sera reconnue, et c'est alors que mon sang rejaillira sur la tête des jurés qui m'ont trop légèrement condamné et du juge qui les a influencés. Ces paroles, si émouvantes qu'elles fussent, ne pouvaient plus changer la conviction du tribunal, et le malheureux fut ramené dans sa prison, où son défenseur, M. Guigné, ne tarda pas à le rejoindre. Il trouva Le Surgue atterré, abattu, brisé. Il songeait à sa femme qui allait être veuve, à ses enfants qui allaient être orphelins. Il courut se jeter, éploré, dans les bras de son défenseur. Mes enfants, ma pauvre femme, balbutia-t-il en sanglotant. Honte, misère, désespoir, voilà le douloureux héritage que je leur laisse. Tout est perdu, n'est-ce pas? Non, pas encore. Qu'espérez-vous? Il faut vous pourvoir en cassation. Mais ils repousseront mon pourvoi. Eh bien, il vous restera alors une dernière ressource. Laquelle? Une requête au directoire. Pour demander ma grâce? Pour demander justice? Mais croyez-vous que l'on m'écoute? N'en doutez pas. D'ailleurs, Courriol paraît disposé à faire des aveux, et demain, il sera appelé devant les magistrats du bureau central qui consentira à l'entendre. Le Sieur ne répondit pas. Le pourvoi en cassation fut rédigé à l'instant même, et il le signa.
Chapitre 11. Suprêmes efforts. Le lendemain, Courriol, amené devant le bureau central, y faisait la déclaration suivante. Le Sieur et Bernard sont innocents du crime pour lequel ils ont été condamnés à la peine de mort, ainsi que le nommé Richard, condamné au fer. Les véritables coupables sont Dubosc et Vidal. Madeleine Brément peut donner des renseignements sur Dubosc et Vidal. À quelques jours de là, il était encore plus explicite. Il ajoutait: Les véritables coupables de l'assassinat du courrier de Lyon sont les nommés Dubosc, Vidal, Durochat et Roussy. Durochat, sous le nom de Laborde, a pris une place dans la ramale de Lyon, à côté du courrier. Les autres sont partis le 8 Floréal dernier de Paris, montés sur des chevaux à lui, Courriol. Il les a rejoints, une heure après leur départ, à la barrière de Charenton. Ils ont dîné et pris le café à Montgeron. Le lendemain, ils sont rentrés tous les cinq à Paris à 5 heures du matin. Lui, Courriol, a amené les chevaux avec Vidal chez Aubry, rue des Fossés-Saint-Germain. Les trois autres, savoir Durochat, Roussy et Dubosc, ont été chez ce dernier, rue Croix des Petits Champs, où lui, Courriol et Vidal, les ayant rejoints, les partages se sont effectués. Roussy et Durochat ont été les chefs de l'entreprise. Le sabre et l'éperon appartiennent à Dubosc, qui est tourné rechercher le sabre à Lurcin. L'autre sabre, trouvé sur la route, appartient à Roussy. C'est Dubosc et Vidal qui se sont promenés dans Lieusaint à pied. Il n'était pas douteux que cette déclaration nette et concise ne fût très grave. Elle se fortifia bientôt d'autres déclarations non moins allées catégoriques, émanant de quatre individus qui jusqu'alors n'avaient point paru au procès et qui semblaient agir spontanément. Le 17 Vendémiaire, en effet, un sieur Jean-François Perrin, portier d'une maison sise rue des Fontaines, vint déposer devant le juge de paix qu'un nommé Vidal occupait dans sa maison un appartement au loyer de 400 francs, qu'il avait quitté au bout de 15 jours pour se rendre à Lyon où l'appelait la mort de son père. Le citoyen Cauchois, menuisier et Goulon cordonnier, déclarèrent qu'ils avaient ouï dire que des 6 accusés, un seul était coupable et que les vrais assassins avaient pris la fuite à l'aide de passeports préparés hors de l'assassinat. Enfin, la fille Brébant vint renouveler ses dépositions précédentes et affirma de nouveau que le Zurk avait été pris pour Dubosc auquel il ressemblait. Devant ce nouvel effort tenté en faveur du condamné, les magistrats hésitèrent et il leur parut qu'il convenait d'épuiser tous les moyens de le sauver si par impossible on venait à prouver manifestement qu'il fût innocent. L'affaire entrait donc dans une nouvelle phase et semblait s'éclairer tout à coup de la lumière apportée par 2 documents nouveaux. L'opinion publique commençait à s'émouvoir et dans le public et dans les journaux, une sympathie très vive se manifestait en faveur du condamné. Dans le Messager du soir, qui parut le jour même où les débats finissaient, un journaliste exprimait ainsi: J'ai assisté au débat et j'assure que loin d'avoir été convaincu par l'assurance des témoins qui déclaraient reconnaître le Surque pour être le même qu'ils avaient aperçu une seule fois il y avait 3 mois, j'ai vu avec peine le citoyen Goyer qui se laisse entraîner quelquefois par la haine qu'il a si justement vouée au vrai coupable, chercher, par un plaidoyer contradictoire, à détruire les faits qu'aurait pu produire sur les jurés la déclaration de quelques ouvriers qui affirmaient avoir vu le jour même de l'assassinat le Zurk chez lui. Il est vrai de dire qu'un autre journal contenait à quelque temps de là l'expression d'une opinion toute contraire. Dans la Gazette Générale du 6 Brumaire en 5, on disait « Le Zurk n'a donc détruit aucune des preuves qui ont motivé sa condamnation. Et cette affaire n'aurait jamais eu un si grand éclat, elle n'aurait jamais occupé le corps législatif, si le ministre de la Justice, que l'on dit être un très proche parent de Le Zurk, n'y avait pris une part extraordinairement active. Indépendamment des mouvements qu'il s'est donné pour obtenir des déclarations en faveur de son parent, et pour mettre en campagne les membres et les agents du bureau central afin de recueillir les preuves de son innocence prétendue, pour déterminer le directoire exécutif à interposer son autorité, à arrêter le cours des lois et à adresser un message au Conseil des 500, il a écrit jusqu'à 5 lettres à la commission, dont 3 en un seul jour, pour l'engager à faire un rapport favorable. On ne peut s'empêcher d'être frappé du ton de ces extraits. Ils attestent évidemment que le public prenait un profond intérêt à cette affaire criminelle et qu'il en suivait tous les détails avec une attention soutenue. Les uns croyaient à l'innocence de Le Zurk, les autres croyaient à sa culpabilité. Mais où était la vérité? Le pourvoi en cassation venait d'être rejeté et il semblait que Le Zurk était désormais perdu. Mais le malheureux avait des amis puissants, des défenseurs courageux, et Maître Guignet présenta requête au directoire. « Le droit de commutation et de grâce, dit M. Fouquier, le plus beau des droits de la royauté avait disparu avec la royauté elle-même. Le directoire n'avait en pareil cas d'autre privilège que celui de faire sursoir jusqu'à vérification à l'exécution de l'arrêt. » On obtint le sursis. On obtint plus, et grâce aux instances et aux prières, il y eut alors quelque chose qui ressembla beaucoup à une révision du procès qui venait d'être jugé. Après cet examen approfondi des pièces, le directoire crut devoir adresser au Conseil des 500 un message conçu en ces termes. « Citoyens législateurs, le nommé Le Zurk, condamné à mort avec un nommé Couriol pour l'assassinat du courrier de Lyon, a été déclaré innocent par ce dernier après le jugement rendu contre eux. Couriol a assuré que la ressemblance de Le Zurk avec un de ses complices de l'assassinat, qu'il nomme et qui n'est pas pris, a pu tromper les témoins. Les déclarations de Couriol sont confirmées par celles de quelques autres personnes entendues après les dites déclarations, postérieurement aussi, par conséquent, au jugement rendu. Le Zurk, qui s'était pourvu en cassation, se réservait de faire valoir les moyens que ces déclarations lui présentaient lorsqu'il aurait été renvoyé par devant le nouveau tribunal qu'il demandait. Mais le tribunal de cassation a trouvé que toutes les formes prescrites par la loi avaient été observées. Il a pu, conséquemment, casser la procédure. Quelle marche convient-il de suivre dans cette circonstance? Le Zurk, s'il est innocent, doit-il périr sur l'échafaud parce qu'il ressemble à un coupable? Le directoire appelle votre attention sur cet objet, citoyen représentant, et il vous fait observer qu'il n'y a pas de moment à perdre puisque demain matin, le jugement doit être exécuté. Exécuté demain matin. Cette chute ne devait pas manquer son effet et un frisson dut passer sur tout le conseil quand retentirent les derniers mots du message. On commença donc par accorder un sursis aux condamnés, ce qui était urgent. Puis, séance tenante, une commission composée de 3 membres, les citoyens Treillard, Crassou et Siméon, fut chargé de préparer un rapport sur cette affaire. Chapitre 12. Le dernier espoir. L'un des commissaires, Jérôme Siméon, était un jurisconsulte des plus éminents, connu par la modération de ses idées, et ce fut justement celui-là qui fut désigné comme rapporteur. Le message du directoire, le sursis accordé, la nomination de cette commission et le choix même du rapporteur, tout cela communiqua un sérieux espoir aux amis de l'USURC. En tout état, c'était un répit. On était au 27 Vendémiaire, 10 octobre 1796. Le rapport ne pouvait pas être présenté avant le 26. C'était donc 8 jours accordés aux condamnés. 8 jours à la veille d'une exécution. Et que de choses pouvaient se passer dans cet intervalle. On respirait. Après tant de témoignages de bienveillance, il ne semblait plus possible qu'on n'ordonnât pas le renvoi du condamné devant un nouveau tribunal. C'est dans ces conditions que se produisirent quelques incidents que nous ne devons pas passer sous silence. On se rappelle que le bijoutier Legrand, arrêté comme faux témoin, avait été renvoyé devant le juge de paix de la section du Pont-Neuf. L'incident était grave au premier chef et sa solution intéressait le condamné à divers titres. Rien du reste de ce qui se rattachait à ce procès criminel ne trouvait de public indifférent, et les faits secondaires de la cause même avaient le privilège de passionner l'opinion. Comme le dit un journal du temps, les Annales universitaires Versailles, « Heureux le peuple chez lequel la mort d'un innocent est une calamité publique. Heureux surtout le peuple pour qui cette mort est une leçon. » C'est notre avis, et nos lecteurs nous rendront cette justice de reconnaître avec quel soin scrupuleux nous sommes descendus dans les petits détails de cette affaire. Nous avons notre opinion faite sur l'incident Legrand, et nous n'y attachons pas plus d'importance qu'il en mérite. Mais nous avons tenu à l'éclaircir autant que possible, et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner le compte-rendu officiel du jugement qui intervint. Voici les termes dans lesquels s'exprime le procès-verbal dressé lors de l'instruction de l'affaire par l'écrivain expert attaché à la justice de paix de la section du Pont-Neuf. Ce procès-verbal établit que le chiffre 8 avait été substitué au chiffre 9 et tracé avec une autre plume et une autre encre, ce qui prouve que cette transformation était postérieure de plusieurs jours à la rédaction de l'article du registre. Le grand interrogé a dit « J'ai déposé d'après la date qui était sur mon registre, je n'ai pas commis de faux. » Dans une autre réponse, il dit « Oui, j'ai reconnu que je m'étais trompé, je n'ai pas eu l'intention de faire un faux. Je croyais la date certaine. Ce n'est qu'après avoir bien examiné mon livre que j'ai reconnu mon erreur. » À lui demander si sa déposition en faveur de l'USURC avait été sollicitée, il répond « Non. J'ai vu avant l'assignation le défenseur de l'USURC qui, ayant vu mon livre, m'a dit que je pourrais déposer, d'après le renseignement du 8, que j'avais vu l'USURC ce jour-là. » Interrogé s'il n'y a pas de témoin qui, sur la foi de son livre, ait déposé pour l'USURC, il répond « Je sais qu'Allendorf et Hiller ont fait la même déposition que moi pour le Zurk, et d'après mon livre, mais je ne puis pas l'affirmer. » Allendorf, mandé devant le juge de paix, a dit « Avant que j'aie reçu l'assignation pour le Zurk, j'ai été chez Legrand. Celui-ci me demanda si je me souvenais du jour que j'avais vu le Zurk chez lui. » Je lui dis que c'était le jour qu'il m'avait donné la cuillère. Il me dit que c'était le 8 floréal d'après son livre. Je n'ai déposé aujourd'hui pour le jour que d'après ce livre. Je ne puis dire si c'est le 8 floréal que d'après le livre de Legrand. Le juge de paix a prononcé ainsi, attendu qu'il n'ait pas prouvé que c'est Legrand qui a fait la surcharge qui existe sur son livre, que d'ailleurs il a rétracté sa déposition, qui ne paraîtrait être que le fruit de l'erreur résultant de la fausse date, disons que le dit Legrand demeurera en liberté. Le résultat de cette instruction était entièrement favorable à Legrand, mais il perdait le Zurk. La rétractation du bijoutier, impliquant logiquement celle d'Aldendorf et de Hiller, jetait une défaveur sur la plupart des autres dépositions à décharge. L'effet en fut déplorable et dut influer sur la décision du tribunal de cassation. Cependant, le jugement du tribunal criminel acquittant Bruer et Quesnot, c'est-à-dire en ne frappant que Coriol, Lezurque, Bernard et Richard, après avoir établi que la bande des assassins se composait d'au moins 5 affiliés, ce jugement, disons-nous, reconnaissait implicitement que tous les coupables n'étaient pas dans la main de la justice et semblait admettre la nécessité d'une nouvelle instruction. C'était rationnel. Coriol ne cessait de répéter depuis que Lezurque et Bernard étaient innocents, que Bernard n'avait fait que prêter les chevaux et que Lezurque n'avait pris aucune part au crime. Et Coriol n'était pas seul à rendre de pareils témoignages. Au moment où Lezurque était à la conciergerie, un certain Monsieur Leroy, ancien capitaine d'infanterie, s'y trouvait détenu comme partisan actif des Bourbons. Et l'ex-capitaine s'était pris de pitié pour le malheureux condamné. À la sortie du tribunal, dit M. Leroy, les condamnés furent amenés au greffe de la prison où je me transportais, et j'entendis les coupables, qui alors avouaient leur crime, assurer que le sieur Lezurque ne l'était pas et qu'il avait été pris pour un autre. Évidemment, l'ex-capitaine se trompe, puisqu'il n'existe dans les dossiers judiciaires aucune déclaration autre que celle émanant du seul Coriol. Ce malheureux, poursuit M. Leroy, ne sortira jamais de ma mémoire, et je puis y songer sans frémir. Cette triste scène se passa en présence du fils du concierge et de plusieurs guichetiers dont je ne me rappelle pas les noms, sinon de Richard, concierge, et de son fils greffier. De plus, le bruit commençait à se répandre qu'il y avait entre Lezurque et Dubosc une telle ressemblance que lorsque, après sa condamnation, Lezurque avait été conduit à Bicêtre, il avait été pris pour Dubosc par les gens de cette maison. Malheureusement, vérification fut faite sur les lieux, et le greffier, les gardiens, le concierge, les porte-clés du sinistre établissement déclarèrent unanimement que la méprise dont on parlait était une pure invention et qu'elle n'avait pas eu lieu. Rapport de M. Zangiagoni. Mais là n'était plus désormais le point important. Un grand acte allait s'accomplir. Ce que l'on avait fait jusqu'alors pour aucun criminel, le Conseil des 500 avait consenti à le faire pour Lezurque, et il allait être appelé à se prononcer solennellement sur la question. On était aux 5 brumaires en 5. Cette fois, c'était bien la dernière ressource et le suprême espoir. Aussi, quel monde de sensations dut emplir l'esprit du condamné à la veille de ce jour fatal. À cette heure, sa tête déjà vouée à l'échafaud, et que le bourreau avait failli y toucher une fois, était tout entière dans la main de M. Siméon. Chapitre 13. Le rapport aux 500. Le 5 Brumaire en 5, 26 octobre 1796, eut lieu la mémorable séance dans laquelle M. Siméon présenta à ses collègues du Conseil des 500 son rapport sur l'affaire Lezurque. Un grand concours de curieux avait envahi de bonne heure les tribunes publiques et autour des Tuileries rôdaient des gens avides de connaître la solution de ce grave procès. Il ne s'agissait de rien moins que de la tête d'un homme, et nous avons dit le bruit qui s'était fait déjà en faveur du malheureux
que des amis puissants voulaient sauver. Une sorte de frisson parcourut l'assemblée quand le rapporteur se leva, puis un silence profond s'établit et M. Siméon commença. Après un exorde un peu emphatique, ce qui était le ton de l'époque, le rapporteur félicitait le conseil de la détermination qu'il avait prise de faire sursoir à l'exécution du jugement qui condamnait le Zurg, et il ajoutait « Il est possible qu'une combinaison adroite, qu'une collusion officieuse entre un coupable et ses complices ait tendu un piège à votre sensibilité. N'importe, il vaut mieux se convaincre qu'on a été trompé que de refuser, de peur de l'être, de s'éclairer que de s'exposer à des regrets. Nous compterons le 27 vendémiaire au nombre de nos jours heureux, si nous avons pu ce jour-là sauver un innocent. » Après ce début, qui ne se prononçait ni dans un sens ni dans un autre, le rapporteur entrait profondément dans l'examen des faits. La commission nommée pour l'examen du message du directoire exécutif relatif à l'Euzurk, frappé comme le conseil de l'importance du sujet, a dévoré avec autant d'attention que d'avidité les pièces qui lui étaient présentées. Deux grandes pensées l'occupaient. Apercevoir clairement l'innocence du condamné, trouver les moyens légaux de pourvoir à son salut et de garantir en même temps celui des infortunés qui pourraient tomber dans une semblable malheur. Mais avec quelle douleur, au lieu de l'évidence qu'elle espérait rencontrer, elle n'a vu que la déclaration du condamné nommé Courriol en date du 19 Thermidor dernier, lendemain de son jugement. Elle porte que Lesurgue et Bernard, condamnés avec lui à la peine de mort, comme convaincus de vol et de l'assassinat du courrier de Lyon et du postillon, conduisant la brouette, on appelait ainsi la malle à cette époque, commis le 8 Floréal vers 8 heures du soir, ne sont pas coupables. Que Richard, condamné au fer pour recèlement, ne l'est pas non plus. Elle désigne, à la place de Lesurgue et de Bernard, deux autres individus, Dubosc et Jean-Baptiste dit Laborde, auxquels se sont joints Rossi, Italien et Lafleur. À l'appui de ces déclarations, quatre individus ont été le 17 vendémiaire chez un juge de paix, faire d'office et pour rendre, disent-ils, hommage à la vérité, les déclarations suivantes. Et ici, le rapporteur fait intervenir les déclarations de Perrin, Cauchois, Goulon et de la fille Bréban, dont nous avons parlé. Puis il poursuit. Votre commission s'est demandé quelle peut être la force des déclarations plus ou moins répétées d'un condamné en faveur de ses co-condamnés. Quelle valeur peuvent avoir des déclarations extrajudiciaires de témoins qui ne se présentent d'eux-mêmes après un jugement? La réponse n'était pas difficile. Quel est le condamné qui, pour une somme d'argent qui serait assurée à sa famille, ou même par une générosité qui ne lui coûterait rien, ne se prêterait pas à décharger un complice dont la mort lui serait être utile et empêcher la sienne? Cet argument laissait évidemment à désirer. Mais ceux qui suivent sont plus sérieux et ont dû produire une profonde impression sur l'Assemblée. « Nous voyons, » continue le rapporteur, « l'officier Courriol absoudre par sa déclaration et le receleur Richard et les complices du vol et de l'assassinat, Bernard et Lesurque, sans que ni Richard ni Bernard songent à réclamer. » C'est Lesurque qui fait seul une tentative qui serait si profitable à tous. Bernard et Richard dénieraient-ils donc les bienfaits de Courriol? Ou ne les y a-t-on mis que parce que, pour sauver Lesurque, il fallait substituer à tous les acteurs en vue une troupe entièrement nouvelle?
Nous concevions comment l'atroce Courriol, indifférente à la vie ou à la mort de ses coaccusés, avait pu consentir à les égorger par son silence pendant tout le cours de la procédure, et qu'enfin, à la veille de passer dans une autre vie, saisi de remords, il avait pu se déterminer à déclarer une vérité qu'il avait trop longtemps étouffée. Mais nous nous demandions comment un citoyen riche, dit-on, et surtout innocent, n'avait pu, avec ce ton tout-puissant et sublime de la vérité, interpeller Courriol. Comment ne lui avait pas arraché, en présence des jurés du tribunal, cette déclaration obscure et tardive? Comment, avec cet accent si persuasif de l'innocence calomniée, il n'avait pas rendu compte à ses juges de toutes ses actions et de tous ses mouvements à l'époque du vide floréal? Pour ne rien omettre, pour veiller à ses défenses autant qu'il nous paraissait l'avoir négligée, nous avons voulu savoir ce qui s'était passé au tribunal de cassation et dans les débats du tribunal criminel. Chapitre 14. Conclusion du rapport. Le rapport de M. Siméon continuait. Au tribunal de cassation, on a plaidé son innocence, fondée sur les déclarations extrajudiciaires et quasi posthumes de Courriol et de quatre témoins dont j'ai rendu compte. On a allégué des nullités chimériques. Le tribunal de cassation, qui n'est pas destiné à connaître du fond, ne les ayant pas trouvés réels, a débouté le Zurk. Mais nous pensons que, si une innocence évidente eût frappé le tribunal, alors, empruntant de la force des faits et quelques couleurs pour les moyens de cassation, il aurait équitablement vu dans les griefs les plus légers une ressource précieuse et décisive. Le tribunal de cassation n'avait donc pas eu cette lumière que nous cherchions et dont nous étions avides. Le Surc a été reconnu par 7 témoins qui l'ont vu, tant à Maugeron qu'à Lursin. L'aubergiste de Lursin et sa femme l'ont spécialement désigné pour celui à qui appartenait un éperon argenté trouvé auprès des cadavres. Le Surc a déjeuné le 12 floréal avec Courriol et Guénot. Co-accusé, chez Richard, autre accusé. Il n'avait pas de carte de sûreté, il n'avait qu'un passeport suranné. Passant à l'incident Legrand, le rapporteur en fait ressortir toute la gravité et il établit qu'elle doit infirmer bon nombre d'autres dispositions à décharge. Et il poursuit. Mais à défaut de ce premier alibi, un autre a été proposé. Il aurait passé la journée du 8 floréal chez une fille nommée D'Argence. On a voulu savoir si cette date du 8 était une leçon répétée machinalement par cette jeune fille ou si c'était l'expression d'un fait vrai. On lui a demandé si elle connaissait le nouveau calendrier. Quel mois précède, quel mois suit celui de Floréal, combien il y a de jours? Elle l'a ignoré. Cette fille d'argent, c'est une inconnue que l'on ne trouve pas au domicile qu'elle s'est donné. Bernard, autre condamné, que Courriol le justifie aussi après coup, avait voulu également prouver son alibi par les témoignages qui se sont trouvés faux et contradictoires. On ne peut nier que tout ceci fut bien accablant pour le Zurk. Et c'est après ces honteux essais, disait M. Siméon, après que 3 jours et 3 nuits ont été épuisés en débats, après que les jurés ont prononcé que les accusés étaient convaincus, qu'on essaie de substituer à d'inutiles et pauvres défenses produites légalement des déclarations illégales et, ce qui est pis, insignifiantes. Mais où s'arrêtera-t-on si les jugements ne peuvent être définitifs? Si lorsque 3 jurés sur 12 peuvent absoudre l'accusé, qui n'a pu obtenir son absolution, vient, sous prétexte de nouveaux témoignages en sa faveur, réclamer un nouveau jugement? Pendant tout le temps que la commission avait siégé, elle n'avait cessé de recevoir message sur message, déclaration sur déclaration. Il est évident qu'une puissante intervention s'intéressait à l'EZURC et qu'on cherchait par tous les moyens à peser sur le rapporteur. Une nouvelle déclaration de Courriol avait été remise à la commission la veille même du 5 Brumaire. « Cette déclaration, annonçait le rapporteur, est accompagné d'une adresse de l'EZURC qui peut, dit-il, sous peu de jours donner les preuves les plus complètes de son innocence. Faire des preuves après un jugement, et quand il faudrait au moins les présenter toutes faites et brillantes de cette lumière qui dissipe tous les nuages et forme le jour de l'évidence, des preuves encore à faire lorsqu'on a produit dans les débats 80 témoins à décharge, lorsque, de l'accusation au débat, il s'est passé près de 3 mois, lorsque, du jugement à la réclamation au conseil, il y a encore 2 mois et 9 jours, depuis plus de 5 mois, le surc est en péril de la vie, et ses preuves ne sont pas faites. Ce matin, des observations ont été distribuées pour le surc. Sans doute, les membres du conseil se seront empressés de les lire. On attend près de moi que je les combatte. C'est bien assez d'avoir cru à soutenir les larmes et le désespoir d'une femme et de 3 petits jeunes enfants. « Oh, je ne suis ni l'adversaire, dit le juge, de leur mari et de leur père. » Tant mieux s'il peut obtenir des membres du conseil des moyens que la commission n'aperçoit pas. Votre commission persiste à vous proposer l'ordre du jour et un message pour en instruire le directoire. Ce rapport avait été écouté par le conseil des 500 avec la plus profonde attention. Dans les tribunes, on faisait silence également. Chacun comprenait qu'il s'agissait de la mort d'un homme. Et quand la dernière phrase tomba des lèvres de M. Siméon, tous les fronts se courbèrent instinctivement et un frémissement courut parmi tous les auditeurs. L'effet n'eût pas été plus profond si on avait en ce moment entendu tomber le couteau de la guillotine. Les 2 propositions présentées par la commission furent immédiatement votées et adoptées à l'unanimité. Cette fois, la condamnation à mort était irrévocable. Quand l'EZURC apprit l'accueil fait au rapport de la commission, il comprit que tout espoir était perdu et qu'il ne lui restait plus qu'à se préparer à la mort. La lutte était finie. Les condamnés à mort furent dès ce jour gardés à vue et entourés de toutes les précautions d'usage. Et l'on prépara l'échafaud. Le surc n'avait pas quitté sa cellule. Il était seul et quand son défenseur vint lui annoncer la fatale nouvelle, il rédigeait une dernière pétition au conseil des 500. La pétition fut envoyée, elle fut lue le lendemain, mais les membres du conseil s'étaient déjà trop occupés de cette affaire, et comme la veille, ils passèrent encore à l'ordre du jour. Dans l'après-midi, il entendit autour de sa cellule un bruit inaccoutumé, un va-et-vient de porte-clés, un murmure de voix sourdes et basses. Puis peu après, un silence sinistre, qui ne fut plus troublé que par le pas monotone et lent d'une sentinelle qui veillait à sa porte. Il eut un sanglot. Il avait senti son épaule frissonner comme à l'attouchement du bourreau. Il prit sa tête dans ses mains et fondit en larmes. Chapitre 15. La cellule du condamné. L'EZURC était sur le bord de cet abîme sans fond que l'on appelle l'éternité. Et c'est la première fois qu'il y plongeait le regard. Le vertige le saisit. Quels rêves horribles durent le visiter pendant cette nuit sans sommeil. Que de remords déchirants s'il était coupable. Que de révoltes pleines d'imprécations s'il était innocent. Quand l'aube parut, l'insomnie l'avait brisé. Assis, le front penché à terre, les bras pendant le long du corps, l'attitude accablée, il avait fini par s'endormir. Les épouvantables visions de la mort avaient fui. Il reposait plus calme, et de ses yeux fermés, sur ses joues fatiguées et livides, coulaient deux grosses larmes silencieuses. Peut-être, à cette heure, revoyait-il les êtres chers qu'il allait quitter. Peut-être avait-il l'instinct d'une réhabilitation posthume, courageusement, saintement poursuivie par la pauvre veuve qu'il avait tant aimée. Il se réveilla en sursaut et presque effaré. Une clé grinçait dans la serrure de la porte. Était-ce déjà la mort? C'était sa femme et ses trois enfants que lui amenait Hélène Ledru, un de ses meilleurs amis. Nous ne raconterons pas cette scène. Hilaire Ledru, qui était un peintre distingué, en a retracé tous les détails douloureux. Le Zurk est assis dans son cachot auprès d'une table grossière, entouré de ses trois enfants qui le dévorent de baisers et l'accablent de tendresse. Le malheureux père cherche en pleurant à se débarrasser de leurs étreintes, tandis que, à deux pas de lui, sa femme sanglote dans l'attitude du plus violent désespoir. Enfin, au fond, un guichetier contemple, impassible et les bras croisés, ce tableau saisissant. Mais il fallait se séparer. Il fallait s'arracher à ces embrassements suprêmes. Et cette heure dut être la plus déchirante. La pauvre femme ne pouvait se résoudre à partir. 20 fois elle gagna la porte et 20 fois elle revint se jeter dans les bras du condamné. Les enfants pleuraient et criaient au milieu de leurs étreintes. On eût dit que le plus jeune lui-même avait connaissance de la solennité de ses adieux. Enfin, on s'empara de ces infortunés, on les porta hors de la cellule, et le Zurk se retrouva seul, livré à lui-même, en face de l'horrible réalité. Il était anéanti. La scène qui venait de se passer lui avait enlevé une partie de son énergie. Il allait et venait à travers la cellule comme un homme ivre. À ce moment, il appelait la mort, et c'est le bourreau qui l'eût voulu voir venir. On était au vendredi 28 octobre 1796. L'exécution a été fixée au dimanche suivant, 30. Le Zurk n'avait plus qu'un jour à vivre. Il l'ignorait, mais il en avait le pressentiment. L'approche du terme fatal releva son courage. Il secoua à toute faiblesse et songea à laisser une trace de ses dernières volontés. Et d'abord, il écrivit à sa femme, la citoyenne veuve Lesure. « Quand tu liras cette lettre, disait-il, je n'existerai plus. Un fer cruel aura tranché le fil de mes jours que je t'avais consacré avec tant de plaisir. » Mais telle est la destinée, on ne peut la fuir en aucun cas. Je devais être assassin juridiquement. Ah, j'ai subi mon sort avec constance et un courage digne d'un homme tel que moi. Puis-je espérer que tu suivras mon exemple? Ta vie n'est point à toi. Tu la dois tout entière à tes enfants et à ton époux. S'il te fut cher, c'est le seul vœu que je puisse former. On te remettra mes cheveux que tu voudras bien conserver, et lorsque mes enfants seront grands, tu les leur partageras. C'est le seul héritage que je leur laisse. Je te dis un éternel adieu. Mon dernier soupir sera pour toi et mes malheureux enfants. Puis il mit ordre à ses affaires et fit le relevé de ses dettes. Au nombre de ces dernières, on remarque, dû 8 louis au citoyen Legrand, qui n'a pas peu contribué à me faire assassiner, mais je lui pardonne de bon cœur ainsi qu'à tous mes bourreaux. Au moment de la fatale toilette, il désira, dit-on, couper lui-même ses cheveux blonds qui lui avaient été si funestes. Il en fit 4 parts et les adressa à sa femme et à ses enfants. Enfin, il écrivit à son sosie, à ce Dubosc pour lequel Courriol affirmait qu'on l'avait pris, et demanda que sa lettre fût insérée dans tous les journaux. La lettre était ainsi conçue. Vous, au lieu duquel je vais mourir, contentez-vous du sacrifice de ma vie. Si jamais vous êtes traduite en justice, souvenez-vous de mes 3 enfants couverts d'opprobre, de leur mère au désespoir, et ne prolongez pas tant d'infortunes causées par la plus funeste ressemblance. Nous verrons plus loin de quelle façon cette prière fut accueillie par ce Dubosc, qui est bien le criminel le plus audacieux, le plus redoutable dont il soit fait mention dans les annales judiciaires. Or, pendant que le Zurk s'occupait de tous ses soins, la dernière journée s'était écoulée et le bourreau, la nuit venue, avait commencé sa sinistre besogne. L'échafaud se dressait dans l'ombre à la lueur de torches qui traçaient dans la nuit de sanglantes lueurs, et tout autour, les curieux se massaient, impatients, avides, comme s'il se fût agi d'un spectacle ordinaire. Chapitre 16. L'échafaud. 3 têtes à voir coupées en l'espace de quelques minutes. Il y avait longtemps qu'on ne s'était trouvé à pareille fête. Le matin venu, un mouvement se fit sentir. Les vagues profondes de la foule tumultueuse se soulevèrent et une rumeur sortit de toutes les poitrines. On avait aperçu de loin l'escorte de la charrette. Les condamnés avançaient lentement et l'on distinguait déjà Courriol et le Zurg debout près du brancard. Courriol était vêtu avec recherche. Et son regard ironique semblait défier la curiosité des spectateurs. Le Zurk portait des habits blancs, protestation suprême d'innocence, et paraissait ferme et digne. Et sur tout le parcours, Courriol ne cessait de répéter, en désignant son compagnon. « Moi, je suis coupable, citoyen, mais le Zurk est innocent !» Et on le tue pour un crime qu'il n'a pas commis. Quant à Bernard, couché sur la paille au fond de la charrette, abattu, terrifié, presque mort déjà, il semblait insensible à tout ce qui se passait à ses côtés et pleurait en demandant grâce ou pitié. Enfin, on arriva au pied de l'échafaud. Les condamnés furent liés l'un après l'autre sur la planche fatale. 3 fois, le triangle d'acier glissa entre les bras rouges de la guillotine, et quelques instants plus tard, la justice des hommes était satisfaite. La tête de Le Surc était tombée, elle avait heurté dans le sanglant panier celle de Courriol et de Bernard. Le drame semblait donc fini, et cette triple exécution pouvait passer à bon droit pour un dénouement suffisant. Il n'en était rien. Malgré le châtiment, en dépit des charges évidentes, le doute persista dans les esprits, et plus d'un spectateur avait frissonné en songeant que le Zurk et Bernard pouvaient être innocents. L'impression se répandit bientôt de tous côtés. On s'en préoccupa comme d'un intérêt général. Et quand, à quelque temps de là, on apprit tout à coup que Laborde, le mystérieux voyageur de la Malle, venait d'être arrêté, la sympathie publique, qui n'avait fait que sommeiller, se réveilla inopinément et dans cette seconde partie du drame, on ne tarda pas à entrevoir de nouvelles et non moins poignantes émotions. Le public ne se trompait pas. Et le spectacle de cette veuve désespérée
de cette mère courageuse poursuivant la réhabilitation de son époux, et peut-être d'un intérêt supérieur encore aux péripéties que nous venons de raconter.